Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Le sens de la fête, un podcast de Christophe Payet pour Nick, la radio.
La nuit, tous les chats sont gris. A-t-on déjà énoncé une plus grosse bêtise ? À la lumière du stroboscope, les chats deviennent roses, bleus, verts, violets, arc-en-ciel. La nuit est un nuancier infini, une galerie de portraits, de singularités, un monde où les costumes anthracites tombent et où les personnalités explosent. Si la fête est toujours l'expression d'une culture ou d'une époque, elle a aussi quelque chose de profondément universel. Partir à la recherche du sens de la fête, c'est se demander en chemin ce qui nous lie en tant qu'humains. Dans cette troisième saison du podcast Le Sens de la Fête, en collaboration avec Villa Schweppes, on explore la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite.
Mais l'histoire est importante. Quand t'as un gamin qui est chez lui, qui dit « Tiens papa, je vais voir une soirée électro soir au Vauban », t'as Pépé qui dit « J'ai connu Mémé sous Liz Taylor ». Le gamin, il va sous le poster de Liz Taylor, il sait que Mémé s'est fait avoir là. Ouais, mais trouver une salle dans le coin qui peut se permettre de dire ça, il n'y en a pas. À Brest, il y a eu tellement de choses détruites avec la guerre que c'est important d'avoir des repères comme ça. Il y a plein de générations qui sont venues faire la fête là, donc voilà.
Bienvenue au Vauban, Brest, Finistère. Bienvenue dans un lieu unique au monde qui vend à la fois et dans un même endroit du sommeil et du bruit, du repos et de l'épuisement jusqu'au bout de la nuit. Pour la première fois, le sens de la fête vous emmène dans un hôtel. Mais un hôtel où les nuits sont folles et agitées, car le Vauban, une institution brestoise, c'est à la fois un hôtel, certes, mais aussi un café, un restaurant, un cabaret, une salle de concert et un club au sous-sol. Mais le Vauban, c'est surtout une ambiance, une âme. Cette âme s'appelle Charles Musy. Chemise noire, haut du crâne dégarni et queue de cheval à l'arrière de la nuque. Pour le rencontrer, il faut s'aventurer jusqu'au bout de l'Eurasie et découvrir sans doute le seul hôtel du continent qui indique à l'accueil « Attention, ce soir, concert bruyant ». Car quand Manuel Malin joue au Vauban, inutile de réserver votre chambre au cinquième étage. Quand les murs tremblent, ils tremblent. Il a donc fallu sortir du studio et sauter dans un Paris-Brest pour enregistrer cet épisode spécial en public dans le cadre du Festival de la Radio et de l'Écoute, Longueur d'onde à Brest. On s'est installé dans le sous-sol du Vauban, au cœur du réacteur, à même le parquet du dance floor, poncé depuis 4 générations. On a pu ainsi palper l'esprit des lieux et surtout sonder le sens de la fête de son taulier. Charles Musy, bonjour.
Bonjour.
La dernière fois que tu as fait la fête, Charles, c'était quand ?
Oh là, là tu me poses une colle déjà.
Ça remonte.
Je sais pas, il y a une dizaine de jours.
Il y a une dizaine de jours, ah bah ça remonte pas tant que ça.
Non, ça va, ça va.
Ça va. Tu fais la fête aussi souvent qu'il y a la fête dans ton établissement ?
Non. Plus. Fut un temps, oui, mais plus.
Plus ?
Non. Je me suis un peu calmé, là.
Qu'est-ce que ça veut dire pour toi que faire la fête ? Quand est-ce que tu considères que tu fais la fête ? C'est quand tu vois des amis, quand tu danses, quand tu bois ? Qu'est-ce que c'est, la fête ?
Je sais pas, c'est quand je vois tous les gens qui sourient, sautent de joie, voilà. Quand je vois les dents blanches de mes clients, ça va.
C'est le sourire, pas, c'est, oui. C'est le partage du sourire aussi, une forme
c'est
de communion.
Ça, ouais, tout à fait.
C'est important pour toi la fête ?
Ah, c'est essentiel. On vit dans un monde où il y a tellement de choses tristes que faut bien rire un peu, quoi. Donc faut se défouler. Moi, je trouve que c'est hyper hyper important.
Ça a toujours été dans ta vie ? Ça a eu quelle place dans ta vie, la fête ?
Je suis né à l'étage ici, avec mon frère et ma sœur. On a toujours vécu au Vauban. Quand on était gamin, mon père faisait déjà son bal populaire. Donc je croisais régulièrement des gens en période fête, on va dire, quoi. Très fatigués quelquefois, mais ça m'a donné l'envie de continuer.
Qu'est-ce que tu recherches, toi, dans la fête ? Qu'est-ce que tu vas chercher ?
Tout. La joie, le rapport humain avec les gens.
Thank you. L'ancêtre du Vauban, c'est l'auberge du Cheval Blanc, je crois, qui a ouvert au XVIIIe siècle.
Oui.
Dès 1922, sont tes arrière-grands-parents qui reprennent et qui tiennent ce lieu de l'auberge du Cheval Blanc. Donc ça veut dire que le Vauban et son ancêtre, c'est une histoire de famille sur 4 générations.
Ouais.
Tout le monde y est passé ?
Tout le monde y est passé.
Les arrière-grands-parents, les grands-parents, les parents.
Et même, ils ont été loin parce qu'à un moment donné, l'hôtel du Cheval Blanc a été dynamité par les Allemands quand ils ont quitté Brest. Cet hôtel se trouvait à la place de la poste centrale. Et ils ont fait dynamiter tout le centre-ville et l'hôtel est parti en fumée. Et mon grand-père a reconstruit un hôtel à l'identique qui s'est appelé l'hôtel Vauban et qui était rue Avenue Clémenceau.
Et donc ça, c'est en 1950 qu'il reconstruit.
Dans les années 50.
Un certain Charles Musy.
C'est mon grand-père.
Son grand-père, Charles Musy déjà, qui dirige le Vauban, le premier Vauban sous ce nom-là.
Celui qui tenait l'auberge du Cheval Blanc s'appelait Don Anton Musy.
Waouh.
Ça rigole pas. Hein.
Famille de mafieux ou...
Ça sortait de Sicile quelque part, je crois.
À l'époque déjà, quand Charles Musy, grand-père, ouvre le Vauban... Il y a déjà une salle de bal ? Il y a déjà cet aspect cabaret ?
Non, la salle de bal était prévue, mais elle n'existait pas. Dans cette salle-là, on mettait le linge à sécher.
Ah, ok.
Ouais, c'était en terre battue, et quand j'étais gosse, il y avait 300-400 poules, ridicules, avec des fils. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de machine à laver le linge dans un hôtel. Donc, c'était les femmes de ménage qui lavaient le linge dans des grands bacs en ciment qu'on a toujours dans la cour intérieure de l'hôtel. Et ils descendaient le linge sur leurs épaules et ils le mettaient à sécher là.
Mais il avait déjà cette envie, cette idée dans un coin de la tête.
Ah oui, tout est prévu. Enfin, tout était prévu dans l'architecture pour recevoir une salle des fêtes.
Il y avait déjà cette envie initiale qui est un peu farfelue de se dire dans mon hôtel, je vais mettre de la fête et je vais mettre du bordel.
Bah, il savait qu'à Brest, sous les Halles Saint-Louis, il y avait une très très grande salle de bal populaire où tous les commerçants louaient cette salle pour organiser des tas de bals tous les week-ends. Et après la guerre, mon grand-père s'est dit on va faire quelque chose qui peut marcher. Il était assez business aussi.
Le sens des affaires, la fête, c'est aussi le sens de la fête, mais aussi le sens des affaires. En 1962, je crois que ouvre du coup au sous-sol du Vauban le dancing qui s'appelle à l'époque la Redoute.
Oui.
Pourquoi la Redoute ?
Parce que c'est une spécialité de Vauban. La Redoute, ce sont les petits spoutniks qui sont dans les angles des châteaux de Vauban et qui sont des trucs imprenables en fait. Spécialité de Vauban. Donc il avait appelé ça la Redoute.
La Redoute, alors.
Imprenable.
Qu'est-ce qui se passe à la Redoute, ce premier dancing dans le sous-sol de l'hôtel ? Qu'est-ce qu'on y écoute ? Qu'est-ce qui s'y passe ?
Oh, c'est surtout du bal musette.
C'est un bal musette,
ouais. Ouais, beaucoup de bal musette. C'est mon père qui, plus tard, était passionné de rock'n'roll et de rhythm and blues, qui a commencé à faire trembler les murs.
Ouais. Bah, ça tremblait aussi la musette, non ? Un petit passo-doble.
C'était pas pareil. C'était pas les mêmes tremblements.
On a aujourd'hui une image vieillotte de la musette, mais à l'époque, les balles pouvaient avoir une certaine folie aussi.
Ah oui, tout à fait.
Et déjà, à ce moment-là, quand ouvre la Redoute, tout est là, le concept du Vauban, danser, manger et dormir sur place.
C'est ça.
Concept qui ne s'est jamais arrêté depuis.
Oh, il y a eu des périodes où mon père a arrêté. Il y a eu des périodes où il achetait l'éponge par rapport à la salle. En fait, mon père avait arrêté parce que le Vauban devenait un lieu un peu vieillot. La grande mode du samedi soir, c'était d'aller dans les boîtes de nuit avec les planchers en... lumineux, un petit peu à la Travolta. Et le Vauban devenait un vieil endroit ringard. Donc il a fermé pendant 10 ans. Pendant 10 ans, cette salle, elle est restée intacte. Et j'ai eu la chance, il y a des moments comme ça dans la vie où il faut être présent. Il y a le Palais des Arts et de la Culture, le Quartz, qui avait brûlé. Et je me rappelle, il y avait Charles Carmarec de Dialogue Musique qui cherchait absolument à trouver un lieu pour faire un lancement d'une maison de disques qui s'appelait Rock'n'Bull. Et ils ont décidé de monter un concert avec, comment il s'appelait ce groupe, les Death Beats et puis...
Ah zut,
c'était les Dogs qui étaient venus jouer. Et en tout cas, ils ont relancé la machine comme ça ce soir-là. Tout le public qui est sorti de cette salle-là ce jour-là a dit « mais c'est un endroit incroyable, il faut le faire revivre ». Et la mairie de Brest cherchait cruellement un lieu pour redynamiser le jazz à Brest. Et qui m'a envoyé tout un cycle de jazz qui a duré pendant une dizaine d'années. Et on a croisé les plus grands musiciens de jazz de toute la planète, donc c'était incroyable. Ouais. Le Vauban est reparti grâce à ça.
Le Vauban a eu plusieurs périodes, plusieurs histoires en fait dans cette salle. Toi, quand tu étais jeune, donc tu as grandi dans les étages là.
Ouais, j'étais au premier.
Est-ce que tu descendais ? Est-ce que t'es venu ?
Ah oui, je venais souvent. Ma mère me demandait d'aller chercher mon père en bas, parce que je suis le plus âgé de l'équipe. parce qu'il y avait des bagarres.
C'était vraiment, il y avait des bagarres.
Il y avait des voyous. Donc, je passais dans une petite salle qui était juste derrière le bar, là, qui était un endroit extrêmement louche. Ça sentait très bizarre là-dedans. Et je venais récupérer mon père en bas parce que ma mère était en haut, lui disant vite, vite, va chercher ton père, il y a des soucis. Et je savais tout de suite qu'il y a un début de bagarre qui arrivait.
Ouais, il y avait les blousons noirs.
Les gros blousons noirs, ouais, c'était. Ça cognait dur, hein. Il y avait les vitrines qui partaient, c'était impressionnant.
Ah ouais, ah bah, oui, donc oui. Ça a toujours été un peu sauvage ici. Parce que
c'était rigolo.
Les fêtes sont sauvages au moment. Oui, oui. J'ai lu d'ailleurs.
Mais les bagarres sont plus les mêmes. À l'époque, c'était rigolo.
À l'époque, c'était rigolo.
Ah oui, oui, parce
qu'est-ce qu'il y avait de drôle dans les bagarres?
Une demi-heure après, ils étaient tous au comptoir à boire un coup et tout allait bien.
Ah, c'était la belle époque, ça.
C'était
on
différent.
Se tapait dessus, mais dans la bonne
voilà,
ambiance.
Voilà.
Et j'ai lu d'ailleurs l'histoire de Raoul le videur.
Ah oui, c'est un monsieur qui a fait la poche de Diem Bien Phu au Vietnam.
Ouais.
Et son autre copain, mon père avait pris deux personnages assez impressionnants. Il y en avait un qui était énorme, là, qui avait donc fait la guerre du Vietnam. Et l'autre était un des plus gros voyous de Kerango, qui était un quartier assez voyou de l'époque. Et ces deux personnages, en fait, faisaient les portiers du Vauban. Celui de Kerango était énormément craint par tous les voyous de la ville. Il faisait régner l'ordre, c'était assez impressionnant. Okay. Il y en avait un, donc le fameux gars de Kerango, il avait des lames de rasoir dans le haut de son costume.
Bonne ambiance.
Dès qu'il y avait une bagarre, tu te prenais dans le haut de son costume, tu regardais tes mains après.
Ah ouais, ok.
Mais c'était l'époque,
ça,
c'était
ça,
les années.
Ça a changé ça au Vauban ou faut faire gaffe ce soir.
Je sais pas, il faut lui demander là-haut. Ouais, c'était très rock'n'roll.
Que, je lisais que le Raoul, là, le videur, cet ancien légionnaire d'Indochine, exfiltrait en camion certains clients par les cuisines.
Ah oui, oui, mon père mettait tous les gens un petit peu indésirables dans la cuisine. À l'époque, on mangeait, nous. Enfin, mon frère et ma sœur, on mangeait dans cette fameuse cuisine où le chef nous préparait un petit plat avant d'aller se coucher. Parce que mes parents n'avaient pas le temps de s'occuper de nous, ils étaient toujours dans leur soirée comme ça. Et les deux videurs nous étalaient sur le sol tous les personnes indésirables en leur disant « si vous bougez, vous en ramassez une ». Et donc on avait des personnes qui faisaient des bruits bizarres à côté de nous. Et en fin de repas, mon père rentrait son petit fourgon dans le garage, donc rue Branda, parce que la police était juste en face, donc... Il rentrait par la petite porte de derrière, il chargeait tous ces gens-là dans son camion et il partait par le petit jardin derrière pour pas être vu et il les déposait dans le jardin de leur quartier. C'était comme ça tous les samedis.
Ça s'appelle une gestion de l'ordre public. Service après-vente. Alors, est-ce que tu as des souvenirs, tes premiers souvenirs de quand tu descends là, à la Redoute? Toi, t'as quel âge? Les premières fois que tu descends?
6-7 ans.
6-7 ans, c'est quoi tes souvenirs? La musique, les lumières
Ah, il faisait très chaud. Très très chaud, c'était blindé à bloc, ça sentait la transpiration terriblement, énormément de monde. Les plus grands souvenirs que j'ai, c'est plutôt les musiciens qui venaient faire des répés l'après-midi. Mmh. Qu'ils arrivaient vers les 13h, ils cassaient la croûte et après ils faisaient des répés toute la journée parce qu'ils faisaient des reprises, c'était pas des compos. Donc c'est assez rigolo, oui.
Ouais.
Je me souviens sur les marches, je regardais ça. C'était
et ça, ouais, quand tu vois ça en tant que gamin, tu dis, ok, ça c'est ma vie, je veux faire ça toute ma vie,
En tout cas, ça m'a énormément influencé, oui,
ouais.
C'est sûr. J'aurais pas vu ça, à mon avis, j'aurais jamais fait de concert. J'aurais eu une discothèque, certainement.
Ah ouais, quand même.
Mais en tout cas, du vrai concert, je sais pas.
Parce que t'as toujours eu cette envie de te dire, je vais organiser la fête, donc j'aurai un bal, une salle de concert, une discothèque.
J'ai toujours aimé la fête, donc je pense que j'aurais fait quelque chose dans cette salle, c'est sûr.
Ouais. Et ça, c'est un héritage du coup familial?
Tout à fait.
D'une certaine manière, inculquer un sens de la fête, tu penses?
Je pense, ouais. Et puis mon père, par exemple, à cette époque-là, quand on avait un restaurant, pour mettre de la musique d'ambiance, on était obligé de créer nous-mêmes nos bandes. Donc il avait des grands Revox et il achetait une maison de disques qui était juste à côté. Là, ça s'appelait Sonodisque, je crois que c'était. Il achetait ces tonnes de disques à la mode et on faisait des pré-enregistrements pour passer ça en musique de fond au restaurant. Donc c'est vrai qu'on passait beaucoup de temps sur la musique.
DJ,
ouais. Ouais, c'était rigolo.
Est-ce que... ensuite, en grandissant, à 6 ans, c'était pas forcément le cas, mais en devenant un peu plus vieux, tu es venu faire la fête toi-même ici?
Ah non, jamais.
Jamais?
Non,
jamais.
Non, parce qu'il y avait une différence d'âge déjà,
ouais.
Et puis de culture. J'aspirais, moi, à une autre musique dans ces années-là.
T'aspirais à quoi?
J'écoutais beaucoup les Creedence Clearwater Revival. Voilà.
C'est quelque chose de plus rock, quoi.
Plus rock, ouais, Harvest.
Tu sortais ailleurs?
Moi, j'allais faire surtout la fête chez des potes ou dans les caves des potes, des choses du genre. Boîte de nuit, j'étais pas très 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 fan.
Pourquoi?
Je préférais me retrouver avec une bande de copains et faire ça dans un appartement ou dans un hangar.
Faire la teuf en bande,
voilà.
du gros rock.
On écoutait les musiques qu'on avait vraiment envie d'entendre.
C'est quoi ton tout premier souvenir de fête?
Le plus vieux souvenir que je puisse avoir, c'est que je passais mes vacances à Port-Smilin. tout près de Brest, à côté de la plage de Trégana. Et à ce moment-là, on squattait un vieux champ, on avait récupéré des vieilles caravanes qu'on avait mis dedans. Je traînais avec des gens plus âgés que moi, et un soir, ils avaient décidé de faire une espèce de grande boum en plein air.
Je crois que c'est mon premier souvenir. Champ, ça s'appelle une rave party, Charles.
Ouais, mais à cette époque-là, ça s'appelait une boum. À cette époque-là, c'était pas ça.
T'avais quel âge ?
J'avais 12 ans, peut-être.
12 ans ? On appellera ça une boum alors.
C'était une boum.
C'est mieux. T'aider aussi, est-ce que t'as rapidement t'as aidé à partir de quand t'as commencé à travailler pour le Vauban? Est-ce que
voilà, j'avais 16-17 ans quand j'ai vraiment commencé. Ouais. J'avais vraiment pas envie de faire ça au départ. Hein.
T'avais pas envie?
Ah non.
Pourquoi?
Bah non, parce que je les voyais bosser tout le temps. Je suis tombé dedans.
C'est l'air infernal.
Bah c'est H24 quoi, tout le temps. Puis à l'époque tout était à la main, je veux dire. Facture d'hôtel, ça veut dire faire ça sur des carnets avec en double. Oh, c'était assez épuisant, ouais. Enfin, le fait de cumuler l'hôtel, le resto, le bar, c'est on plonge en fait d'une société dans une autre en quelques secondes, quoi.
Ton travail, c'est de faire la fête aux autres.
Oui.
C'est surtout du travail, en fait.
Non.
La fête fait partie quand même de ton quotidien.
La fête fait toujours partie de mon quotidien. Je fais moins la fête et je suis moins dedans depuis quelques années, depuis les 4-5 ans. Mais il y en a peut-être quelques-uns dans la salle qui se souviennent. Voilà, de... Non, j'adorais ça, donc on finissait à pas d'heure. Soit ça se passait dans la salle, soit ça se passait dans les loges avec les musiciens. Quelquefois, on remontait.
C'est là qu'est la vraie fête. Hein.
Interrogez Miossec, vous allez voir, il va vous dire. On allait conduire ma fille Charlotte à... Elle venait me chercher pour me dire « Papa, il faut m'envoyer à l'école. »
Ah ouais.
J'étais papa, avec Christophe et puis
il est 8h du matin, faut que j'aille à l'école.
Et on allait avec la 4L, on l'envoyait à l'Arteloir.
Eh ben bravo.
Chut.
Ce qui est fou, c'est qu'avec un lieu comme ça, qui existe depuis autant de temps, il y a au moins 3 générations qui sont venues faire la fête ici. Il y a sûrement aujourd'hui des jeunes Brestois.
C'est ça mon gros souci actuellement, c'est pour ça que je veux arrêter.
Ouais.
Bah, je me retrouve soit avec les enfants de mes anciens copains ou les petits-enfants.
La Redoute, c'est un dancing, c'est des orchestres musettes. La musique amplifiée débarque au Vauban en quoi, milieu des années 60, 65
65, 70, quoi.
Ouais. Et là, ça devient une place forte du rock.
Ouais. Alors, par contre, ils jouaient tous sur leurs gros amplis. Hein. Ils avaient des marchands énormes, il n'y avait pas de console de façade. Console retour, ça n'existait pas.
Donc ça, c'est la deuxième période de la salle du Vauban. On a la musette, ensuite on a le rock, vraiment. Grosse salle rock. Est-ce que Brest, c'est une ville rock?
Oui. Ah oui, il y avait des pépites, des musiciens incroyables de rock à l'époque. Mais qui jouaient dans des petits bars, il n'y avait pas de... Si, on avait des groupes comme Humility in Blue Times avec, comment il s'appelait, Jacques Le Guélec, qui était énorme. Et Madmata, qui ont démarré dans un tout petit club, au Barumbar, c'est ça.
C'est la fête dans un concert de rock au Vauban?
Ah oui, tout le temps.
C'est quoi la fête rock au Vauban? Ça se passe comment?
J'ai plus que deux raisons de bière, quoi.
Ouais.
Puis on sautait très haut.
Ça jumpait, quoi.
Voilà.
J'ai lu dans le livre, parce qu'il y a ce livre Le Vauban, un siècle d'histoire berrestoise, qu'à l'époque, c'était tenue correcte exigée au Vauban.
Ah oui, obligatoire. Ça ne veut plus rien dire maintenant.
Donc c'est plus le cas, on rentre comme on veut au Vauban.
Tout à fait.
Ouais. À l'époque, c'était une tenue correcte pour rentrer au Vauban?
Tu ne pouvais pas rentrer en t-shirt ni en jean. Là, tu ne rentrais pas. Hein. C'est foutu. Basket encore moins.
Même pour des concerts de rock.
Ah ouais.
C'était une exigence.
Je sais pas, non, ça faisait partie des règles de l'époque, je pense.
Ouais.
Quand tu ouvrais une boîte, t'es obligé de mettre cette étiquette sur la porte, tenue correcte, exigée.
Pour avoir la respectable, parce que si t'as pas ça, en fait, t'es pas une boîte respectable. Ouais.
Enfin, 2 heures après ou 3 heures après, vous voyez l'état des gens respectables.
Ouais. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Combien de temps la tenue est-elle restée correcte? Et l'alcool coule à flot à ce moment-là.
Dans des conditions difficiles parce qu'on n'a pas les techniques de bière qu'on a maintenant, donc c'était quelque chose. Hein.
Est-ce que le Vauban a toujours été un lieu où la fête a toujours débordé, a été très libre, presque un peu sauvage?
J'ai tendance à dire que oui.
Et ça a été une volonté, alors de ta part aujourd'hui, de la part de ton père, de dire voilà, on a une certaine idée de la fête.
Ça faisait partie de nos gènes.
Tragédie dans l'Isère aux premières heures de cette journée de la Toussaint. Plus de 140 morts dans un incendie. Ils étaient allés danser, c'était des jeunes en grande majorité. Ils étaient allés au 5-7, un club, une boîte au décor psychédélique.
Il y a un incendie qui va avoir lieu dans un dancing assez loin d'ici, dans l'Isère.
Ah oui, le 5-7.
Ouais, c'est ça, qui va faire pas mal de morts et qui va entraîner un durcissement de la réglementation sur les établissements de nuit dans toute la France. Et je crois que c'est ça qui signe l'arrêt de la redoute.
C'est ça qui a signé l'arrêt de la redoute. Mon père a fait les travaux de remise aux normes de l'époque, mais c'était tout et n'importe quoi parce qu'il n'y avait pas de normes officielles. Et d'un seul coup, l'État pond des tas de choses et il y a des travaux qui ont été faits qu'il a fallu recommencer parce que c'était pas tout à fait, en fait, ce qu'il fallait. Mon père a jeté l'éponge à cette époque-là, oui.
Et c'est toi ensuite qui l'a relancé?
La salle est restée 10 ans fermée et puis un jour, je vous dis, il y a Dialogue Musique qui est venu avec Charles Kermarec. Mon père était en vacances et il cherchait désespérément un lieu pour faire un gros coup de pouce pour ouvrir son magasin de disques, là, Rock'n'Bull. Bah, j'ai désobéi à mon père. Pendant qu'il était en vacances, j'ai dit, OK, on ouvre. Je dis pas quand il est rentré de vacances.
Il est descendu chercher son linge.
Ah ouais, non, mais là,
il y avait une teuf.
Il était furieux, il m'a dit qu'est-ce que t'as fait, il est hors de question. Il était resté sur l'image des bagarres, que c'était un lieu qui était complètement désuet, qui n'avait plus rien à voir avec la période du moment. Il voulait plus en entendre parler, quoi. Il m'a dit, bah écoute, comme t'as donné ton accord, on va aller jusqu'au bout, mais je te préviens, si ça se passe mal, je casse tout, je détruis tout, et plus personne ne fera rien là-dedans. Et ça a été l'inverse. Pendant une semaine, il y avait des tas d'articles qui tombaient de partout. Et puis après, le rapport de presse, après le concert, a été extrêmement élogieux. Et c'est juste après ça que la mairie est venue me voir, justement, pour monter un cycle de jazz au Vauban.
Ouais, et là, on rentre dans la troisième phase, un peu, du Vauban en tant que salle de concert. Ouais. C'est la période jazz.
Il y a une grosse période jazz. Ouais.
C'est toi qui as impulsé ce jazz au Vauban.
J'avais vraiment envie, oui, parce que je me rappelais de plein de concerts que mon père avait fait. Il avait fait Bill Coleman dans cette salle, mais il y a Sidney Bechet, il y a des années. Et je voulais absolument remettre ce truc en route, quoi.
Tu as reçu ici tous les plus grands.
Bah, j'ai une chance inouïe, comme je vous ai dit, le Palais des Arts et de la Culture ayant brûlé, ils cherchaient désespérément des lieux pour faire du jazz. Donc j'ai eu cette chance-là de pouvoir profiter d'artistes qui n'auraient jamais dû passer au Vauban.
Des Archichep, des.
Horace Parlant, Kenny Wheeler, Lee Konitz.
Il y a même une compilation jazz au Vauban qui est sortie.
Oui, c'était avec le tourneur de Didier Esquiban qu'on avait fait ce disque qui est relativement introuvable maintenant.
Le tournant qui amène au Vauban, peut-être qu'on connaît aujourd'hui, est-ce que tu dirais que c'est 1989, la venue de Léo Ferré? C'est un tournant pour la salle?
C'est un gros tournant. Hein. C'est une personne qui a marqué le lieu à vie, puis surtout qui m'a confirmé en partant, ne touchez jamais cet endroit, quoi. Laissez-le dans l'état où il est, même s'il est un peu abîmé, c'est pas grave.
Comment ça s'est passé? Comment il est arrivé ici?
C'est une histoire rigolote, oui. En fait, il jouait au Palais des Arts et de la Culture, il avait eu un problème le matin, il y avait son merchandising qui dormait au Vauban, qui devait le récupérer, il dormait à cette époque-là au Mercure à côté. Et je rencontre un type à 7h du mat qui était en train de taper sur le capot de sa voiture parce qu'il n'arrivait pas à la mettre en route. Donc je lui donne un coup de main à réparer sa voiture, il me dit je vous paye quelque chose, je dors au Vauban. Il me dit bah, ça tombe bien, allons-y. Et il me dit bah, pour vous remercier, Léo Ferré va arriver, il va vous offrir quelque chose. J'étais pas très fier, je sais pas pourquoi, mais bon. Et on voit donc Léo Ferré arriver, et puis il m'offre une lithographie. Et un coup de chance inouï, c'est que sur le comptoir, il y avait les programmes du Vauban, il y avait sur la couverture du programme, il y avait Gilles Vigneault. Et il me dit, où c'est que joue Gilles? Je dis, il joue ici. Il me dit, ici où? Je dis, dessous, il y a une salle.
Ici où? C'est un hôtel, monsieur.
Et donc, il me dit, je peux voir. Il descend, il voit la salle. Et pour faire court, quelques mois après, on a reçu un coup de fil, quoi, demandant les dimensions de la salle et patati patata. Et Léo
est venu jouer. Ouais. Et en partant, il t'a dit, surtout, ça faut pas que
En partant, il a dit un truc que j'ai jamais entendu nulle part en concert. C'est on est descendu un piano, c'était un 3/4, je crois. Et enfin, sur son dernier morceau, il se lève, il dit « Ne m'applaudissez pas, je m'en vais comme je suis venu ». Ici, il y avait, je ne sais plus, 600, 700 personnes, on était hors normes. Dans un silence absolu, c'était impressionnant. Et des gens qui tombaient dans les pommes à la fin du concert.
Ah ouais, ah ouais.
C'est extra, c'est extra.
Ah, À partir de là, le Vauban devient ce qu'on appelle après l'Olympia brestois, le bus palladium de l'extrême ouest.
Ouais.
La déco n'a pas bougé depuis...
Rien, si la tapisserie était refaite une fois quand on a fait les gros travaux avec la ville de Brest, mais le rouge de la tapisserie, la texture, tout est à l'identique.
Donc au rez-de-chaussée, on a une brasserie avec un comptoir en bois, du laiton.
Alors la brasserie a été refaite il y a 25 ans, elle était pas, elle ressemblait pas à ça, mais par contre cette salle-là est intacte.
Des murs rouges, une boule à facettes, un vieux comptoir.
Tout est d'origine.
Ça a toujours été une volonté pour toi de garder
J'ai toujours
identité.
Voulu la garder, oui. Mais ça m'oblige à mettre des rustines un peu partout pour tenir le truc à peu près propre.
C'est quoi l'esprit du Vauban aujourd'hui ?
C'est un collectif de potes qui font plein de concerts dans tous les styles, dans tous les genres et qui adorent l'endroit. Et c'est ce que c'est d'ailleurs, hein, de toute la programmation du Vauban. Il y a plein de gens qui me demandent pourquoi il y a du rock, pourquoi il y a du jazz, pourquoi il y a du blues. C'est parce que quand j'ai commencé, j'avais plein d'amis, comme Jacques Guérin ou comme Gilda et Mathieu des Sonic ou comme Marc Ribette ou Jacques Abalin de Diogène. C'était tous des gens passionnés, tous des gens qui organisaient des concerts, qui connaissaient des musiciens. Moi, j'avais une salle et puis on a décidé de tous se mettre en commun quoi, et d'avoir un lieu où tout se passe.
L'éclectisme dans la programmation, ça fait partie de l'identité
du lieu.
C'est important,
c'est super important.
Qu'est-ce qui fait qu'un lieu de fête comme le Vauban peut avoir une ambiance aussi particulière, aussi plément d'âme ? C'est quoi ? C'est l'histoire qui est chargée dans les murs ? C'est parce que c'est une bande de copains qui le
Je pense que c'est un
tourner.
Tout. Mais l'histoire est importante. Quand t'as un gamin qui est chez lui, qui dit « Tiens, papa, je vais voir une soirée électro au soir au Vauban », t'as Pépé qui dit « J'ai connu Mémé sous Liz Taylor ». Le gamin, il va sous le poster de Liz Taylor, il sait que Mémé s'est fait avoir là. Ouais, mais trouver une salle dans le coin qui peut se permettre de dire ça, il n'y en a pas. À Brest, il y a eu tellement de choses détruites avec la guerre que c'est important d'avoir des repères comme ça. Un lieu où les gens se reconnaissent.
C'est un repère, ouais.
Il y a plein de générations qui sont venues faire la fête là. Donc voilà, quand ils sont à table, ils ont de quoi parler de quelque chose d'autre que les emmerdes qu'on a actuellement.
Tu parlais des portraits qu'il y a au mur. Il y a beaucoup de portraits, que ce soit dans la salle en bas, dans le bar, dans l'hôtel.
Alors je rassure, ils ne sont pas venus tous. Hein.
C'est
y a
pour
plein
faire
de gens
genre...
qui me posent la question. Ils sont non.
Alors en revanche, il y a un portrait qu'on retrouve beaucoup, et lui pour le coup, il est beaucoup venu, il vient beaucoup. C'est Miossec.
Ah, il est partout. Oui.
C'est une figure du Vauban, Miossec.
Oui. Ouais, puis c'est mon pote depuis des années et des années. Et oui, c'est quelqu'un d'extrêmement important. Des superbes rencontres que j'ai fait quand on était gamin, quoi. Et il traînait avant d'être artiste, il traînait au Vauban, il venait voir des concerts. Et c'est là qu'on s'est rencontrés.
Et il a fait
il payait pas
coup.
Ses notes déjà à l'époque. Ouais. C'est pour ça que j'avais repéré le bonhomme.
Et il a fait son premier concert ici, en première partie de Divine Comédie.
Alors c'était les Sonic Floor qui avaient organisé ce concert. Ils avaient monté un concert avec Divine Comédie et Christophe faisait la première partie. Ouais. Et en fait, il avait raflé la soirée à Divine Comédie. C'était énorme.
Il avait volé la vedette
déjà.
Oui.
On l'attend. Je ne sais où, je ne sais quand. On l'attend. Dans quel virage, à quel tournant. On l'attend. Je ne sais où, je ne sais quand. On l'attend.
Comment tu vois ton rôle en tant que patron d'un établissement comme ça ? D'une certaine manière, quand on rentre en fait dans le Vauban, même quand on n'est jamais venu, il y a un sentiment de familiarité.
Je crois que c'est moi qui l'ai créé, je veux dire avec toute mon équipe, je suis le patron, mais enfin en même temps, je nettoie le caniveau avec eux, comme je dis.
C'est sûrement ça.
Charles, il y a les toilettes qui sont bouchées. Oh merde. Excusez-moi.
Les toilettes, on en reparlera un petit peu plus tard, les toilettes du Vauban. Elles sont mythiques aussi.
Oui, je vois la queue.
Tu parlais de l'éclectisme de la programmation. Il y a aussi quand même quelque chose qui est devenu important au Vauban, c'est les musiques électroniques, c'est la techno, notamment avec le festival Astropolis et les fondateurs d'Astropolis qui sont venus organiser un paquet de soirées ici. Comment les musiques électroniques entrent au Vauban ?
Alors moi j'ai toujours, je détestais à l'époque la musique électronique, je supportais pas ça.
Bon, c'est une bonne base.
Gilda et Mathieu venaient me voir régulièrement, mais je disais non, je veux pas faire.
C'est la merde, vos boum boum, c'était ça.
C'est toi qui m'as envoyé Stéphane Escher déjà à l'époque. Mais Stéphane, oui, mais Electro, non. Manu le Malin, non. Et puis, en fait, ils ont été très malins. Ils savaient que ma mère aimait... comment tu m'as dit qu'il s'appelait, là, tout à l'heure ?
Ouais,
ma mère était fan de Franck Michael. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Sonic ? Ils ont pris un gros billet devant Franck Michael, sur la scène, je ne sais plus où ils jouaient, à Pinfeld. Et en fait, ils ont soudoyé ma mère comme ça, quoi. Ma mère est venue me voir, elle m'a dit, tu sais, ils sont vraiment gentils, les mecs des Sonic. Hein, tu pourrais quand même faire un effort pour faire leur concert, là. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé.
Et ça a marché, c'est bien vu, hein, d'aller draguer la maman à un concert de Franck Michael pour ramener Manu le Malin au Vauban.
C'est comme ça que
c'est
ça s'est
tordu,
fait,
mais...
intelligent.
Ça se joue à peu de choses, hein, l'histoire d'un lieu, quand même.
Et après, elle a quand même regretté un petit peu son truc, parce qu'elle dormait au-dessus, il faut savoir. Hein. Une fois à savoir, mais après, quand ça a commencé à prendre une cadence...
La première soirée à Astropolis, elle est venue me voir, elle a dit, c'est quoi ces conneries? Et du coup, voilà, la musique électronique, la techno, Astropolis arrive au Vauban, ouais. Et ça devient aussi une part importante de la programmation, avec pas mal d'after, de soirées. On peut dire que tu organises des rave parties dans un hôtel.
Il y a des trucs fous. Hein.
Ouais. Je sais pas si nos auditrices et nos auditeurs qui ne sont jamais venus peuvent imaginer ce que c'est que de dormir au premier étage juste au-dessus d'un DJ set de Manu le Malin.
Ouais. T'es en apnée dans un caisson de basse.
Voilà. C'est ça.
Et t'es vraiment en apnée. Tu te demandes ce qui t'arrive.
petit tips, et si vous venez un jour à Brest au Vauban, demandez le cinquième étage.
Ouais, quoi, mais quoique.
Quoique, ça change pas grand chose.
Les basses transmettent, c'est juste psychologique. Ça. Les cinquièmes, on entendra moins.
Aujourd'hui, tu descends au sous-sol, toi, voir les concerts, t'amuser, t'as le temps de pouvoir.
Je suis là à tous les concerts, je reste pas à tous. Quelquefois, je reste un quart d'heure, je pars. Mais enfin, tout ce qui est concert électro, tout ce qui est mon concert qui termine à 5h du matin, je suis là tout le temps. Là, tous les week-ends, je suis là jusqu'à... une fois qu'on a fini tout ce qui est compta et remise de la salle, ouais, toute l'équipe, on part, il est 8-9h.
Du matin ?
Tous les vendredis, tous les samedis. On est parti jusqu'à 9h demain matin.
Là. C'est plus qu'une passion, ça. Sacerdoce, en fait.
Il y a un moment, tu sens plus. C'est comme ça. tu t'habilles, tu te dis, c'est bon, allez, au revoir, à demain.
Je me demandais, est-ce que t'aimes danser ?
Non, je déteste ça.
C'est vrai ?
Ah, j'aime pas danser. J'adore la musique, mais j'aime pas danser.
Ok, pourquoi ?
Je danse extrêmement mal. Oh là 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 là.
Personne ne danse
c'est
mal.
C'est catastrophe.
C'est dans la tête.
Oui, bah... si je danse, tu vas voir. Tu vois.
Mais t'aimes voir les gens danser,
ah, j'adore,
contre.
Ah oui, par contre. Quand tu dis j'adore, je regardais les gens danser, je me rappelle quand je faisais mon bal rétro, il y avait des séries de Madison, mais c'était impressionnant. T'avais 300 personnes, ils étaient tous en ligne... faisait le même mouvement, c'était très beau à voir.
Ouais.
Quand on faisait des valses, pareil. Bon, c'est vrai que la nouvelle génération sur la techno, ça danse pas beaucoup. Hein.
Ah, ça danse différemment.
Oh là 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 là.
En fait, t'aimes toujours pas la techno. À vous. Le public du Vauban, c'est qui ?
C'est tout le monde.
C'est important, le mélange des publics, justement, pour créer la fête ?
Ah, c'est super important.
Ouais.
Non seulement du public, mais de l'âge.
Aussi. Des générations.
Au Vauban, à 20h, souvent, vous avez un mélange de tous les âges, de tous les genres, et ça, c'est extrêmement important.
Est-ce que aujourd'hui c'est sélectif à l'entrée, le Vauban ?
Non.
Ça l'a été, non. Puisqu'on parlait de tenue correcte exigée. Aujourd'hui, non. Tout le monde rentre.
Faut vraiment, excusez-moi du terme, faut vraiment faire le con pour être viré.
Ouais.
Quoi.
Même pour se faire virer du Vauban, faut y aller, quoi. Faut...
Je pense qu'il faut, ouais, faut
vraiment y aller.
Il faut mettre de la bonne volonté, ouais. C'est surtout si vous agacez les portiers.
Mais il y a une volonté, du coup, d'une certaine manière, d'être assez permissif pour que la fête puisse.
Puis vous allez juger quelqu'un, quoi, par rapport à sa tenue vestimentaire, par rapport à. Voilà, je veux dire.
Puis en plus, au Vauban, la fête, elle est ici, mais elle est aussi dehors, elle est sur le trottoir, elle est partout dans la rue.
Sur le trottoir, il faut faire attention parce que j'ai des soucis quand même.
De voisinage. Non, mais voilà, en fait, tout le reste se rassemble autour du Vauban le vendredi soir.
Je peux comprendre parce qu'avant, les trois quarts des gens allaient fumer leurs cigarettes rue Banda, donc juste en sortant. Il faut voir que tous les immeubles qui étaient à côté, c'était infernal. Les gens, ils ne pouvaient pas dormir, ce n'était pas possible, et je me mettais bien à leur place. Donc on a modifié, maintenant, les gens qui veulent fumer, ils sont obligés d'être parqués sur le, comment on appelle ça, sur la terrasse du Vauban. C'est du bonheur maintenant pour les gens dans le Brandard. C'est du bonheur.
Bah sinon, ton petit panneau, attention ce soir, concert bruyant, il faut le mettre dans toute la rue. Tout Brest. Mais puisqu'on parle de se faire virer du Vauban, du bordel, de la sauvagerie que ça peut être, le Vauban, c'est aussi énormément d'histoires, de légendes. Et quand on débarque pour la première fois au Vauban, on nous raconte toujours l'histoire de la chute. Je pense que je l'ai entendu au moins 3 ou 4 versions de cette, un peu comme une légende urbaine de cette histoire de.
Ah, le type qui est tombé dans le plafond. Ah ouais.
Et pourtant, ici, la légende n'est pas urbaine, mais elle est bien vraie. C'est quoi cette chute mythique? Raconte-nous parce que.
Mais là, on est parti pour une heure.
Ah, bah, on a le temps.
En fait, il y avait un concert au Vauban ce soir-là, et puis. Il y avait un petit malin qui s'était amusé à taper sur les blocs, sur les blocs de secours, et en fait le concert s'était arrêté. Enfin bref, on avait réussi à faire repartir le concert, il y avait beaucoup de monde, et au moment où je monte à l'étage, il y a mon barman qui me dit: Charles, il y a un autre problème. Je dis: qu'est-ce qui se passe? Il y a un gars qui marche sur le plafond de la brasserie. Et là je regarde le plafond, puis on voit le plafond, c'est comme une peau de tambour. Je dis: c'est pas possible. Et il n'y a qu'un endroit pour entrer dans ce plafond, c'est une trappe qui se trouve juste derrière le comptoir. Donc il faut mettre une échelle pour y aller. Bon, j'ai comme regardé. J'ai vu la trappe fermée et pas d'échelle, je dis: mais comment il est arrivé là-dedans, quoi? Et j'avais un mec dans le plafond.
Il y avait un mec dans le plafond.
Alors je vais faire court, le gars, en fait, c'était un mec qui faisait du rugby, il était dans l'équipe de rugby de Plouzané, je balance. Hein. Et ils étaient partis recouvrant sur la fête, et il y a un pote qui lui avait dit: tiens, prends un cachet, tu vas voir, avec ça, tu vas être le meilleur du monde. Il a eu la sélection au niveau. Là. Et en fait, ils ont tous déboulé au Vauban. Et alors, ce que je vous raconte, je l'ai vu sur les caméras après. Mais parce qu'il a fallu que je cherche comment il ait pu rentrer là-dedans.
Remonter l'enquête, mener l'enquête et remonter le fil de l'histoire.
Pour faire court, il est monté dans les étages, il a pris la sortie de secours qui est dans le fond.
Il s'était fait virer du Vauban.
Ça, il y en a qui vont faire les cons après. Ouais. En fait, il est sorti par une sortie de secours qui est dans le fond des couloirs. Il est tombé sur l'escalier de secours. Mais là, c'est super dangereux parce que vous tombez sur un toit qui est à 10-11 mètres de haut. Il pleuvait, il était 2h du matin, dans la nuit noire.
Il était archi défoncé.
Je ne sais pas où il était. Et en fait, au lieu de monter vers le haut du toit où il aurait pu tomber dans la rue Brandard, il est descendu dans le bas du toit. Et de toit en toit, il s'est retrouvé dans la cour intérieure. Mais là, il est 2h du mat, il pleut. Il est dans une cour intérieure qui est située au premier étage. Impossibilité de sortir. Tout est fermé, mais il sait pas, il est tellement dans un état. Et là, en farfouillant dans la cour, entre deux moteurs, il entend de la musique. En fait, c'est le faux plafond de la brasserie où il y a des gaines de ventilation naturelle, il y a des tubes de métal qui envoient de l'air frais dans la brasserie. Et en fait, il arrache la grille, et comme il entend de la musique dans le tube et qu'il voit de la lumière au fond du tube...
Ici, la fête, c'est là.
Ce con, il rentre dedans.
J'y vais.
Et sauf c'est une marmule quand même, et c'est un tube qui n'est pas non plus très large. Et il est juste tenu par des tout petits fils de fer. Il n'y a aucune raison de mettre du fil armé là-dessus. Et il rentre dedans, 4 mètres de long. Et il sort au bout du tube, il est en plein milieu de mon toit.
Du faux plafond.
Et voilà, et donc l'histoire. Et donc là, du coup, j'ai essayé d'ouvrir une trappe pour lui demander de se calmer et tout. Ça dure pendant un quart d'heure, il n'arrête pas de se balader sur le plafond. Il y a 1m10 de hauteur de faux plafond, mais il y a des tiges de métal partout parce que c'est du staff. Je sais pas si quelqu'un sait ce que c'est, un plafond en staff, mais il y a des tiges de métal partout. Donc il se balade dans cette forêt de tiges, et comme il voit qu'il n'arrive pas à s'en sortir, il y a un mur dans le bout du plafond où il y a un trou dans le mur. Il rentre dans ce trou, ce couillon, et là il tombe dans la partie sanitaire. Et là c'est plus du plafond en staff, c'est du placo-plâtre. Et comme il n'arrêtait pas de se démêler, je lui dis: arrête de bouger, arrête, je vais t'ouvrir une trappe, tu vas pouvoir sortir. Et puis d'un seul coup, j'ai entendu.
Bam.
Et en fait, il est tombé sur le lavabo des femmes, des sanitaires des femmes. Vous imaginez, il y avait une dizaine de femmes là qui étaient en train de se refaire une beauté. Paf, il y a un rugbyman qui tombe sur l'évier, dis donc. Voilà. J'ai eu un miracle, j'ai donc couru pour aller le récupérer dans les sanitaires, et là toutes les femmes regardaient, il n'y avait plus de plafond, tout le plafond était tombé, et il y avait des fils qui tombaient partout. Donc je secoue une fille, je dis: mais où il est, elle me dit: viens de partir par là. Donc je cours et je l'ai chopé à l'entrée du sas, il était couvert de plâtre, le mec. Je lui dis tu vas où? Bah, je sors, il me dit:
non, c'est un film avec Pierre Richard, en fait, cette histoire.
Mais heureusement que je l'ai chopé, parce que il y avait je ne sais plus combien de dégâts. Quoi. Ses parents, ils n'étaient pas contents. Hein. Quand on est venu.
Non plus, j'imagine.
C'était fait. Ah bah non, le soir même, j'étais fou. Mais quand on est venu avec l'expert, là, les parents faisaient le tour. Et donc, il aurait pu se tuer dans le haut de la sortie de secours, il aurait pu se tuer dans le plafond. À chaque fois qu'on montrait un endroit où il était passé, sa mère lui foutait des paires de gifles. Je crois pas qu'il ait recommencé depuis. Quoi. Mais c'est une histoire vraie. Ouais.
C'est donc une histoire vraie et c'est ça le Vauban.
Mais elle a fait le tour de France. Là. J'avais tous les musiciens dans Miossec qui jouaient dans le sud de la France qui me disaient alors, qu'est-ce qui se passe?
C'est quoi ces histoires?
Tais-toi.
Voilà, je vous avais dit qu'on reparlerait des sanitaires du Vauban. Ouais. Ah oui. Il y en a beaucoup des légendes comme ça et des soirées qui partent complètement en vrille comme ça.
Ouais, il y en a eu. Ouais. Entre un hôtel, un resto, un bar, une salle de concert et une discothèque, je peux vous dire qu'il y a des anecdotes. Quelquefois,
ouais, ça fait un potentiel d'anecdotes.
Moi, mon veilleur de nuit, il a vu des télés descendre avec des draps juste devant lui.
Pardon ?
Il était en train de faire gardien de nuit, c'était un début de week-end, il n'y avait rien dans la salle, tout était fermé. Et puis il était en train de pianoter sur le téléphone. Et puis devant la vitrine, il a vu à un moment donné quelque chose qu'il avait vu. Regarde, il y avait une télé qui descendait avec un drap. Le mec était en train de descendre une télé pour la piquer. Quoi.
Il avait planqué la télé dans le drap, ça passe crème.
Ça fait drôle. Ouais.
Évidemment, on l'a dit, l'alcool coule à flot et pour qu'il arrive ce genre de choses, il faut y aller un petit peu quand même. Ça coule. Est-ce que la fête, c'est forcément l'ivresse?
Pas nécessairement. Je crois que la musique en est pour énormément aussi. Hein.
Ouais.
Mais en même temps, la musique et l'alcool, tout ça, c'est lié.
C'est lié, puis la musique amène aussi une forme d'ivresse. Mmh,
mmh. Ils boivent pas trop, hein.
Pardon ?
Non.
Alors, justement, parce qu'au risque d'être cliché, on raconte qu'à Brest... Et plus largement, peut-être en Bretagne, on lève plus facilement le coude que dans le reste de la France. Qu'est-ce que t'en penses en tant que patron tenancier d'un établissement?
Oui, ça consomme beaucoup.
Ouais.
Ouais. Oui.
Qu'est-ce qui relie au fond un bal musette à la Redoute dans les années 60 et une teuf de Manuel Malin au Vauban aujourd'hui?
On s'est l'envie de s'amuser, je crois.
Ouais.
Je crois que c'est ça. Hein. C'est faire la fête, c'est passer du bon temps.
C'est quoi pour toi les ingrédients d'une fête réussie? C'est quoi le plus important? Ça va être la musique?
C'est la musique, je pense.
C'est la musique le plus important pour toi?
Ouais. Ouais. Le reste, tu peux le faire dans n'importe quel endroit. Si la musique est bonne, ça va fonctionner. Bon, faut pas que le barman soit un crétin non plus. Quoi. Enfin, voilà. Mais je pense que oui, c'est la musique qui est la partie essentielle.
Qu'est-ce qui peut tuer la fête?
Tu coupes le son.
Franchement, couper le son...
Diminuer le son trop fortement,
ça marche pas. Ça n'arrête pas la fête de couper le son. Ça devient une fête sans musique.
Non, parce qu'on voit maintenant, on arrête de servir de l'alcool une heure avant la fin de la fermeture obligatoire. Et ça change pas, les gens continuent à danser.
Ouais.
Donc c'est pas l'alcool non plus. Couper le son ou diminuer le son pour arrêter la fête.
Pour conclure, après cette grande discussion ensemble, qu'est-ce que c'est au final pour toi que le sens de la fête, sa raison d'être?
C'est le bien-être des gens, c'est de voir les gens qui rigolent, qui s'amusent, qui se retrouvent entre potes, voilà, qui passent un très bon moment, qui n'ont pas envie de partir. Pour moi, c'est hyper important. C'est la base même d'un lieu comme le mien, quoi.
Le sens de la fête est un podcast de Nicla Radio, écrit et animé par Christophe Payet. Réalisation, Malo Williams.
Si tu devais choisir un seul morceau de musique pour faire la fête, ton morceau ultime.
J'aime un truc que j'aimais beaucoup quand j'étais gosse qui s'appelait Inaga da Davida. C'est une musique un peu planante, ça démarre. C'est un peu comme Mort des Pink Floyd, un petit peu. Enfin, c'est toute cette génération, j'aimais beaucoup ça. Mais j'écoute pas un truc plus qu'un autre, quoi. Je zappe, ça va dépendre avec quel copain je suis, je vais passer ce genre de musique ou voilà. Je peux mettre du Johnny Hallyday aussi certains soirs, hein, y a pas de soucis, je suis pas contre.
Oh Marie, si tu savais tout le mal, 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 mal,
treat treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.